VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 25 mars 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Nouvelles attaques au Niger, au moins 11 personnes ont été tuées hier dans 3 villages de la région de Tillaberi. En République démocratique du Congo, près de 80 officiers dont l'ancien chef de la police John Numbi ont été enjoints de quitter Lubumbashi pour Kinshasa. L'Égypte tente de dégager un porte-conteneur géant qui bloque le canal de Suez, perturbant les livraisons de pétrole. La première conférence de presse du président américain Joe Biden depuis son arrivée au pouvoir se tient à la Maison Blanche. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Niger, au moins 11 personnes ont été tuées hier en fin d'après-midi au cours d'attaques contre 3 villages de la région de Tillaberi dans l'ouest du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Selon un élu de la zone, les assaillants sont venus sur plusieurs motos vers la fin de l'après-midi. Ils ont tué 3 personnes à Ziban Korazeno, une autre à Ziban Kwarategui et 7 autres encore à Gadabo. Les assaillants ont encerclé les villages et ceux qui ont cherché à fuir ont été poursuivis et abattus. Une école a été incendiée, un centre de santé a été saccagé et des animaux ont été volés, a ajouté cet élu qui a préféré garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Les 3 villages situés dans une zone difficile d'accès sont distants de quelques kilomètres. En mai 2020, 20 personnes ont été tuées dans ces mêmes villages par des hommes armés venus à moto et qui avaient ensuite fui en direction du Mali selon les autorités. Dans la région voisine de Tawa, plus de 300 personnes ont été tuées en moins d'une semaine dans 3 autres attaques contre des villages dans l'ouest du pays. Jusqu'ici, aucune de ces attaques n'a été revendiquée.
Au Nigeria, le courant électrique est revenu hier soir à Maïdougouri après 2 mois d'interruption causée par le sabotage d'une ligne à haute tension par des djihadistes. La capitale de l'État de Borno et ses 3 millions d'habitants étaient plongés dans le noir depuis le 26 janvier. La semaine dernière, la température avoisinait les 42 degrés Celsius. En Sierra Leone, un bidonville de Freetown a été détruit par un incendie hier soir, selon les autorités municipales, estimant que des milliers de personnes ont été touchées par le sinistre. La communauté de Susan's Bay, au bord de l'Atlantique, a été ravagée par le feu, a indiqué sur Twitter le conseil municipal de la capitale. En République démocratique du Congo, près de 80 officiers de l'armée ont été enjoints de quitter Lubumbashi. Parmi eux, l'ancien chef de la police pro-Kabila, John Numbi, contre lequel la justice a ouvert une enquête sur l'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur. Le point avec Eddie Isango.
Un document officiel a été envoyé depuis le 18 mars aux officiers résidant à Lubumbashi, disant qu'ils sont appelés à un retour vers la capitale où ces officiers sont sans affectation. Le général John Numbi, proche de l'ancien président Joseph Kabila, récemment tombé en disgrâce, est sur la liste des officiers affectés. Ancien chef de la police congolaise, le général Numbi est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat en 2010 du défenseur congolais des droits de l'homme Floribert Chebeya. Le général Numbi aurait fui depuis plus de 2 semaines au Zimbabwe, mais cette affirmation n'a jamais été confirmée. La justice congolaise a ouvert une enquête contre lui dans le cadre de cette affaire, selon les ministres congolais de la justice par intérim Bernard Takaishi Ngumbi. Par ailleurs, une dizaine d'autres officiers dépêchés par l'état-major général depuis Kinshasa séjournent depuis mardi à Lubumbashi pour une mission sécuritaire dont les objectifs n'ont pas été rendus publics.
Au Mozambique, l'armée a lancé ce jeudi une offensive pour repousser des djihadistes au lendemain d'une attaque à Palma dans le nord-est du pays, où un grand projet gazier a été paralysé par les violences, a annoncé le ministère de la Défense. Les assaillants ont attaqué la ville hier, forçant des habitants à fuir dans la forêt. Le nombre de victimes et l'étendue des dégâts sont encore indéterminés, selon le porte-parole du ministère, Omar Saranga. En Afrique du Sud, la justice a examiné ce jeudi la requête d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit emprisonné pour son refus de témoigner. Depuis la création en 2018 de cette commission, M. Zuma multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer. Après une énième convocation snobée en février, la commission a réclamé à la Cour constitutionnelle de prononcer une peine de 2 ans de prison pour outrage à la justice contre l'ancien chef d'État. En Libye, le gouvernement unifié a appelé au retrait immédiat des mercenaires présents dans le pays. Un appel lancé par la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, lors d'une conférence de presse à Tripoli avec ses homologues allemands, français et italiens. Ces derniers ont effectué une visite surprise dans la capitale libyenne, une dizaine de jours après l'installation du gouvernement chargé de gérer la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. Au Maroc, la police a annoncé l'arrestation de 4 hommes suspectés d'avoir planifié des attaques à Oujda pour le groupe État islamique, une opération menée en coordination avec les renseignements américains. Les 4 suspects âgés de 24 à 28 ans planifiaient des attaques contre des installations vitales, des locaux sécuritaires et des bases militaires du pays, a indiqué le Bureau central d'investigation judiciaire marocain. L'université d'Aberdeen en Écosse va rendre une sculpture au Nigeria. Des milliers de sculptures ont été pillées par les forces britanniques en 1897 lors de la destruction de la ville de Benin City, située dans l'actuel Nigeria et alors capitale du royaume d'Abomey. La sculpture en bronze qui va être restituée, qui représente un oba, a été acquise par l'université lors d'une vente aux enchères en 1957.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden tient sa première conférence de presse un peu plus de 60 jours après son arrivée au pouvoir. Ce face-à-face avec les journalistes arrive en même temps que de nombreux défis pour le pays, dont l'immigration et les armes à feu. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Le rendez-vous très attendu à Washington est prévu à 17h15, temps universel. Il a lieu dans la prestigieuse East Room de la Maison-Blanche avec un nombre limité de journalistes en raison des restrictions liées au COVID-19. Ce sera l'occasion pour Joe Biden de vanter les mérites de son gigantesque plan d'aide de 1900 milliards de dollars. Un plan adopté par le Congrès et bien accueilli par les Américains. Le président américain va en outre aborder d'autres sujets plus complexes, dont le casse-tête des armes à feu. 2 fusillades successives en Géorgie et dans le Colorado ont relancé le débat sur les armes à feu. Si Joe Biden a appelé le Congrès à agir, réclamant en particulier l'interdiction des fusils d'assaut, la manœuvre des démocrates est très faible au Congrès où il ne dispose que de majorité étroite. La question de l'immigration sera aussi un sujet chaud pour celui qui veut rompre avec les politiques de son prédécesseur Donald Trump. Le 46e président américain est tout aussi attendu sur la politique étrangère, dont le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, les discussions avec l'Iran, que faire avec la Chine, le bras de fer avec Vladimir Poutine et bien d'autres sujets.
Le jeune homme inculpé pour la tuerie dans un supermarché du Colorado a comparu devant un juge qui a ordonné son maintien en détention. Ahmad Al-Aliwi Alissa, 21 ans, issu d'une famille d'immigrants syriens, est inculpé pour le meurtre de 10 personnes lundi à Boulder, dans le Colorado. Par ailleurs, un homme porteur de 6 armes à feu, dont un fusil d'assaut et un fusil à pompe, a été arrêté hier dans un supermarché d'Atlanta en Géorgie. Un porte-conteneur géant s'est mis en travers du canal de Suez dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une tempête de sable bloquant l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Le point avec Eric Manirakiza.
Le navire a dévié de sa trajectoire au milieu des fortes rafales de vent de sable qui ont affecté l'Égypte et une partie du Moyen-Orient. L'autorité égyptienne du canal de Suez a annoncé jeudi que le trafic maritime est temporairement suspendu jusqu'à la remise à flot de l'Eva Given. Le propriétaire du navire a expliqué qu'il était extrêmement difficile de le renflouer et cela pourrait prendre des jours, voire des semaines. Environ 30 navires sont à l'arrêt dans la zone d'attente au milieu du canal de Suez, 40 autres patientent en Méditerranée et 30 dans le golfe de la mer Rouge. L'incident affecte les marchés mondiaux du pétrole en raison des retards de livraison et les prix ont bondi mercredi. Le canal voit passer près de 10% du commerce maritime mondial, sont les des experts. Le canal a déjà été obstrué par le passé, notamment pendant la crise de Suez en 1956, lorsque des navires ont été coulés par les autorités égyptiennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
Au Bénin, l'État a annoncé avoir retenu le groupe Sonatel comme partenaire privé devant piloter la Société béninoise d'infrastructures numériques, troisième opérateur de téléphonie mobile du pays, devant opérer aux côtés de MTN et de Move Africa, filiale de Maroc Telecom. C'est l'une des étapes dans la restructuration du secteur public des télécommunications béninois, démarrée depuis 2017. L'agence de notation Moody's met en garde. Les banques africaines sont vulnérables à l'accélération et à l'aggravation des chocs climatiques, surtout si leurs clients ne prennent pas des mesures pour mitiger ces risques. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'agence Moody's qui porte sur 49 banques actives dans 14 pays africains. Ce risque climatique est estimé à 218 milliards de dollars selon Moody's. Malgré la révision en hausse de la croissance du PIB américain pour le quatrième trimestre 2020 à plus 4,3%, la contraction du PIB annuel reste à 3,5% en 2020, sa pire année depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Devant le Congrès américain, le président de la Banque centrale, Jerome Powell, a martelé que l'économie a été gravement affectée par la pandémie et qu'elle était loin d'être remise. Il a indiqué que tout changement de la politique monétaire actuelle de la Réserve fédérale se ferait progressivement et avec une grande transparence.
À présent, les sports présentés par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Éliminatoire de la CAN 2021 au Cameroun. Les Comores se sont qualifiés pour leur première Coupe d'Afrique des Nations après avoir pris cet après-midi contre le Togo le point qui leur manquait. Les Sulacantes sont qualifiés avant même la dernière journée du groupe G avec ce match nul 0-0. Avec donc 9 points, ils ne peuvent plus être rejoints par le Kenya qui est troisième du groupe avec seulement 3 points qu'ils ont dominé dans ce groupe. Malgré sa domination d'ensemble, l'équipe d'Amir Abdou n'a pas réussi à marquer, mais elle a obtenu cette qualification historique déclenchant une explosion de joie parmi le millier de personnes autorisées au stade de Malouzini. Ce soir, toujours comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021, les chocs Afrique du Sud, Ghana, Gabon, République démocratique du Congo et ce derby de l'Afrique du Nord entre la Tunisie et la Libye. Les étalons du Burkina Faso ont, eux, arraché hier leur qualification avec un match nul de 0-0 face aux Cranes de l'Ouganda. C'était à Kampala avec donc 9 points et en tête du groupe B, le Burkina Faso est sûr de terminer les éliminatoires parmi les deux premiers, quels que soient les résultats de la dernière journée le 29 mars prochain. Pour le sélectionneur Kamou Malo, l'essentiel a été fait.
Nous sommes venus ici avec la ferme intention en tout cas de faire un résultat parce que nous savions que, également qu'il y a un match qui nous reste et nous allons aller parachever l'œuvre en tout cas chez nous au pays. Alors, mais pour ce soir, on a eu une belle équipe ougandaise, joueuse, mais au finish, c'est le résultat que nous on était venus chercher. Et les enfants aussi ont été tactiques. Vous savez que c'est difficile dans ces situations-là de jouer ce genre de match.
La Guinée aussi a obtenu hier son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Sili National a dominé à domicile 1-0 le Mali. Le Mali déjà qualifié. Rappelons que le Tchad dans ce groupe a été disqualifié par la CAF avant les deux derniers matchs et de fait le Mali et la Namibie ont bénéficié chacun des matchs gagnés 3-0. Dans le groupe K, les Éthiopiens ont créé la surprise en écrasant à domicile Madagascar 4-0 et prennent provisoirement la première place en attendant cette rencontre entre le Niger et la Côte d'Ivoire demain soir.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Nigeria, le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté de 3 millions en 3 mois à cause des multiples attaques contre des écoles. La région du Nord est aussi affectée par de violents conflits liés à l'accès à la terre. Un reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.
Depuis l'enlèvement des écolières de Chibok, le Nigeria a connu plusieurs enlèvements massifs au fil des ans, soit par des bandits, soit par des militants islamistes. Les derniers incidents faisant craindre qu'aucune école ne soit sécurisée. Le nombre d'enfants non scolarisés du pays ces dernières années était estimé à 11 millions, selon l'UNICEF, faisant du Nigeria le pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne. Kamilou Fagé est professeur de sciences politiques à l'université de Kano dans le nord du pays.
D'abord, il faut retenir qu'il y a une grande différence entre le sud et le nord sur le plan de l'éducation, dont la crise dans le nord-ouest et le nord-est a rapidement augmenté le nombre d'enfants non scolarisés dans ces régions. C'est quelque chose qui va continuer à augmenter cette différence.
Des centaines d'écoles ont été forcées de fermer dans le nord du Nigeria en raison des attaques des groupes armés. Cela fait plus de 10 jours que les 39 étudiants enlevés à l'Institut forestier de Kaduna sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, obligeant les parents des étudiants enlevés à descendre dans les rues pour réclamer le retour de leurs enfants. Linda Agbo a sa fille parmi les étudiants enlevés.
Écoutez nos cris et aidez-nous. Aidez-nous à intervenir auprès du gouvernement. Ils doivent se lever pour nous aider. Ils doivent venir à notre aide.
Chaque fois que des enfants sont éliminés de leurs écoles par des hommes armés dans le nord du Nigeria, l'épisode des filles de Chibok est mentionné. Le gouvernement ne semble pas encore avoir de stratégie pour empêcher ces incidents de se reproduire. L'ambassadeur pour la paix et la bonne gouvernance, Ahmad Souleymane, manque de mots pour décrire ce qui se passe.
Les mots me manquent. C'est vraiment triste. C'est vraiment touchant. Mais ce qui est plus touchant, ce n'est pas pour ce qui est arrivé, mais pour ce qui va se produire encore. Le même cycle se répète et cela, c'est parce que les Nigérians n'ont pas encore appris la leçon. Et tout cela est devenu un jeu de chantage.
Depuis décembre 2020, des gangs à la recherche d'une rançon lucrative ont enlevé un total de plus de 700 élèves de leurs pensionnats et autres établissements d'enseignement du nord du Nigeria dans au moins 5 incidents distincts. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, les réactions affluent au lendemain de l'annonce du ministre de l'administration territoriale pour fermer des églises pentecôtistes et arrêter certains de leurs leaders qui ne respectent pas les mesures barrières contre la Covid. Certains Camerounais pensent qu'il s'agit d'un acharnement contre ces églises, tandis que d'autres estiment que cette décision était nécessaire. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
On nous impose dans le monde une pensée unique. Ou vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous ne ferez partie des bons citoyens.
Pasteur Franklin Yebga de la mission de sainteté africaine ne décolère pas suite à la menace de fermeture des églises pentecôtistes qui ne respectent pas les mesures barrières.
Ma position reste la même. Elle ne va jamais changer. Que je sois en prison, arrêté ou pas, je dis, avec les chiffres que nous avons, 5 à 8 millions de morts dans le monde par an, Malgré ce que nous avons reçu comme chiffre avec les médias, nous sommes à environ 2 millions de morts en plus de Covid.
Ce pasteur qui cumule 25 ans de ministère et coiffe une trentaine de chapelles sur l'ensemble du territoire national dénonce une théorie du complot.
Quand on parle de 588 environ, 0,02% par rapport aux graves maladies. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes, par exemple, problème d'eau. Ça allait au nord, les gens n'ont pas d'eau. Ça allait sur Mbamikim, les gens n'ont pas d'eau. C'est vrai que nous avons fait les forages. Je pense qu'il y aurait mieux ailleurs, n'est-ce pas, de nous imposer une pensée unique.
Le relâchement dans les mesures barrières n'est pas qu'une affaire des églises pentecôtistes.
Monsieur le ministre doit également faire une note pour les bars, pour le marché Mokolo, le marché Mfundi, le marché Mvorombi. Je passe à côté de ce marché tous les jours. Je ne vois aucune personne avec le masque sur les narines. On ne pense même pas à ça.
Docteur Tiala Essomba est considéré comme l'une des figures de proue du pentecôtisme au Cameroun. Il draine de nombreuses foules à Yaoundé.
J'ai exigé à mes oreilles de venir au culte avec les masques. Nous avons une salle de 10 000 personnes. Ça veut dire que vous pouvez mettre 1 000, vous pouvez mettre 5 000. Nous avions également placé les seaux, les gens lavent les mains. Ça veut dire que nous respectons les règles barrières exigées par l'administration camerounaise.
On estime à un peu plus de 2 millions le nombre de Camerounais membres des églises pentecôtistes. Le COVID-19 étant un problème de santé publique, un laisser-aller dans le contexte actuel serait fatal, selon ses habitants de la capitale.
Le pasteur qui se lève pour dire que le corona n'existe pas, moi je pense qu'il est en train d'amener même ses fidèles dans la perdition. Le ministre a vraiment pleinement raison de dire que leur église sera fermée.
Nous voyons comment le Covid agraine les morts. Et un pasteur qui dit que non, on ne peut pas boire les remèdes ou on ne peut pas faire les mesures barrières, il n'est pas vraiment, ce n'est pas bien.
D'autres Camerounais estiment que la méthode du ministre de l'administration territoriale est sujette à bien de questionnements. Albert Hassan travaille pour le secteur privé.
Fermer tout de suite, à mon sens, serait un peu sévère. Il y a d'abord un devoir de sensibilisation, d'information. Si on ne respecte pas ces deux aspects, on pourrait avoir l'impression que l'État a un problème autre ou bien un problème particulier avec ces églises. Et vous savez que ce sont des Camerounais qui sont quand même également les fidèles de ces églises. Des Camerounais qui ont besoin également de pouvoir croire en leur Dieu.
Sous la contrainte de respecter désormais les mesures barrières, certains pasteurs entendent se concerter avec leurs fidèles pour décider de la conduite à suivre. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ce mois de mars consacré aux droits des femmes nous amène au Sénégal, où deux femmes se sont plongées dans le domaine très fermé de la mécanique automobile. À Dakar, le garage Fatou Fatou est dirigé par Fatou Camara et Fatou Silla depuis 2005. Des mécaniciennes qualifiées qui font le même travail que les hommes tout en assumant leur statut de femme et de mère de famille. Partons à leur rencontre à travers un reportage de Sédina Abagué.
Très tôt dans la matinée, les deux Fatou sont déjà au taquet. En uniforme de travail, elles réparent une Mercedes blanche de modèle récent. Fatou Camara et Fatou Silla sont les fondatrices et les gérantes de ce garage mécanique automobile spécialisé en Mercedes. Un atelier qui tourne depuis 2005 avec des femmes qui ont une expérience de 26 ans. Alors, pourquoi la mécanique?
Parce que la mécanique, c'est passionnant comme métier. Depuis toute petite, on aimait ce métier. On aimait faire la bricole.
Fatou Camara est mariée et mère de plusieurs enfants. Malgré l'exigence de son métier, elle arrive à concilier son rôle de chef de garage et d'épouse.
Oui, je suis madame Paye. Pour moi, il n'y a pas de problème. Être femme mécanicienne ou être femme docteur, c'est pareil pour moi. C'est pas difficile. Quand on est au garage, tu vas faire ce que tu dois faire, c'est de travailler. Arriver à la maison, tu es une femme au foyer. Il suffit seulement d'avoir un mari qui te comprend. Si tu as un mari qui te comprend, tu peux gérer tout ça. C'est pas difficile à faire. Tout dépend de l'homme et de la famille aussi.
Sa sœur et collaboratrice Fatou Silla a suivi la série académique S3. Elle a acquise une grande expérience lors de son passage dans le garage. Elle avoue être qualifiée de garçon manqué à cause de son métier, une appellation qui ne la dérange guère. Elle en rit plutôt car elle a un mental fort. De plus, elle aime son métier.
La mécanique, c'était réservé aux hommes. Mais maintenant, tu vois beaucoup de femmes qui font ce métier. Moi, personnellement, on me taxe de garçon manqué, mais ça ne me gêne aucunement. Au contraire, je suis fière. Parce que pour moi, la mécanique, c'est dans la tête. Donc, pour moi, tout ce qu'on peut, la femme peut le faire. Et j'ai pas de problème dans ma famille, parce que mon père et ma mère m'ont soutenu jusqu'ici. Et que j'avoue que c'est un long chemin et c'est pas facile. Parce qu'à chaque fois, je dis que la mécanique, ça s'apprend au jour le jour. Avec les nouvelles voitures, la technologie. Mais pour moi, tout ce que, si tu veux quelque chose, tu peux arriver.
Fatou est célibataire pour elle. Le mariage viendra au moment opportun. En ce mois de mars dédié aux femmes, voici le message qu'elle envoie à la gente féminine.
Je conseille aux jeunes filles de redoubler d'efforts, de tenir bon. J'attends. Peut-être que moi, je me dis à chaque fois que c'est le jour, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et que j'attends le bon Dieu.
Fatou Camara et Fatou Silla sont devenus incontournables dans le secteur de la mécanique automobile à Dakar. Leur garage, nommé Fatou Fatou, est parvenu à avoir une notoriété et une reconnaissance des pairs et du public grâce à l'abnégation et au professionnalisme de ces deux femmes qui sont parvenues à briser les stéréotypes d'un domaine généralement réservé aux hommes. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les députés russes ont adopté mercredi une loi qui donne à Vladimir Poutine le droit de se présenter pour deux nouveaux mandats présidentiels. Il devrait en théorie se retirer à la fin de son mandat actuel en 2024, mais pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Glignasti, qui est directeur de recherche à l'IRIS, est spécialiste des questions russes.
Quand Poutine a lancé cette réforme de la Constitution, il considérait que son pays traversait une période difficile, il y avait un effondrement des prix du pétrole à l'époque, c'était juste un peu avant le Covid, mais donc il y avait un ensemble de choses et qui pouvaient être estimées comme menaçantes, ou en tout cas sur lesquelles il s'est appuyé pour dire que finalement c'était lui le garant de la stabilité du pays et que sur cette base il serait mieux qu'il ait la possibilité de rester au pouvoir. Au départ d'ailleurs, les premiers projets de constitution, c'était un projet qui diminuait un tout petit peu les pouvoirs du président par rapport au Parlement, et à l'arrivée ça a été une constitution qui augmentait encore les pouvoirs du président et augmentait ses prérogatives et augmentait aussi une lecture très traditionnaliste de la société russe.
Et quel sera justement l'impact sur l'Europe et les États-Unis, par exemple, au cas où il restait jusqu'en 2036?
Il peut y avoir un impact très sérieux sur la société russe parce qu'il y a une usure du pouvoir qui est incontestable, même si la popularité de Poutine est quand même toujours à 60%. Donc s'il reste jusqu'à la fin, il y aura quand même un effet d'usure du pouvoir qui sera considérable et qui sera très probablement un élément d'instabilité dans la société russe. Ça, c'est en interne. En externe, non. En externe, il n'y a pas de conséquences particulières, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique de Poutine est marquée par la continuité, et c'est toujours les mêmes préoccupations, la même ligne qui est suivie, hein, et qui est annoncée, et qui est suivie.
L'opposition russe, est-ce que vous la voyez dans une capacité de renverser la vapeur d'ici quelques années?
L'opposition russe, pour l'instant, ne représente pas grand-chose. Hein. Donc on va voir aux prochaines élections législatives de septembre. Mais d'autre part, il y a deux oppositions. Il y a ce qu'on appelle l'opposition systémique, qui n'en est pas une, avec le parti communiste, le parti quasiment d'extrême droite, ce qu'on appelle le LDPR de Jirinovski. Et donc ceux-là, ils sont pour l'instant trop pro-Poutine, en fait. Hein. Mais c'est une position qui pourrait tourner mal pour le régime, hein, parce que le parti communiste est un peu énervé par la trop grande docilité de son chef, M. Zyuganov, vis-à-vis de Poutine, et on sent bien que les jeunes piaffent. deux des grands leaders de l'opposition hors système, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas admis, qui n'arrivent pas au plafond de 5% et qui portent des idées mais ne sont représentés que de façon tout à fait minimale dans les instances régionales et en tout cas pas du tout à la Douma, c'est-à-dire au Parlement central, ces partis-là ne sont pas prêts à soutenir Navalny et ils l'ont fait savoir. Alors maintenant les choses peuvent bouger, évidemment au bout de deux mandats supplémentaires la situation peut s'aggraver, surtout si la situation économique est mauvaise. Mais pour l'instant, l'opposition n'est pas une force capable de déstabiliser le régime.
Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.